frères et sœurs, mes amis, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci. Jésus dit, « Ne portez pas de jugement afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugé. La mesure dont vous emploierez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras, c'est clair, pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Puis Jésus ajouta, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Et puis, juste un peu plus loin dans ce même évangile, c'est un spécialiste des Écritures, un théologien, qui avait voulu tendre un piège à Jésus et qui lui demande, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, et c'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Mes amis, nous voici donc en été. La plupart d'entre nous sont en vacances, on se réjouit pour eux, on pense à eux. Et l'été, c'est bien sûr le temps des vacances. Le temps pour découvrir des paysages, des visages. Le temps de se reposer et puis de faire le point, bien entendu. Quant à moi, c'est vrai qu'après une année d'arrêt due à la maladie, alors que j'ai bien sûr repris des forces et poursuivi mon traitement contre le cancer, ben, j'ai eu, croyez-moi, tout le temps pour faire le point sur ma vie à la lumière de l'Évangile. Le Seigneur m'a soutenu et vos prières aussi, et je vous en remercie sincèrement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de sa part ce matin? Lui qui nous dit, et c'est un verset qui m'a soutenu pendant toute cette année, verset au psaume 55, « Jette ton souci sur le Seigneur. » Et il prendra soin de toi. Ça, c'est un beau verset. Hein? Pas besoin de retenir beaucoup, mais jette ton souci sur le Seigneur et il prendra soin de toi. Eh bien, alors, partant des textes de Matthieu qu'on a lus tout à l'heure, j'ai à vous dire ceci. Il s'agit pour chacun de nous d'apprendre à regarder les choses qui nous arrivent. Le monde, les autres et soi-même avec les yeux de Jésus-Christ. Vous savez, mon grand intérêt pour les Pères de l'Église, et je vous recommande le parcours que nous allons poursuivre en étudiant des textes de l'Évangile de Jean l'automne prochain et la possibilité de vous joindre à ce petit groupe qui travaillera le texte de Jean et puis un petit apport des pères. Alors, je vais de temps en temps vous en citer un ou l'autre. Vous les oublierez dans les noms pour la plupart d'entre vous, mais vous vous rappelez que ces pères, qui étaient des chrétiens extraordinaires, qui ont souvent payé de leur vie pour leur foi et pour l'affirmation de l'Évangile, ces gens ont des choses extraordinaires encore à nous apporter. Et souvent, chez nous les protestants, les évangéliques, les salutistes, on pense toujours qu'il y a eu les apôtres, et puis tout à coup il y a eu un grand vide, et puis on s'est retrouvé avec les réformateurs, et puis après William Booth, etc. Non, il y a eu quand même plus de 1500 ans où il y a eu quelque chose, où il y a eu des chrétiens qui se sont battus, qui ont témoigné, qui ont été souvent persécutés, qui ont défendu la foi chrétienne contre ce qu'on appelle les hérésies, c'est-à-dire des fausses images, des fausses manières de concevoir l'Évangile. Et ces pères de l'Église, comme on les appelle, sont des gens remarquables. Alors, faut-il commencer par le rappel que la vie spirituelle chrétienne n'est pas d'abord une accumulation de connaissances religieuses. Il ne s'agit pas de connaître la Bible par cœur, il ne s'agit pas de connaître tous les préceptes théologiques importants pour être chrétien. Bien sûr que non. Et même la pratique fidèle du culte ou des bonnes actions ne fait pas forcément de nous un chrétien. Ça doit en dépendre, bien sûr, mais ce n'est pas cela qui définit notre réalité de chrétien. La vie avec Jésus-Christ, c'est mon projet de prédication ce matin, est bien plutôt une transformation progressive du regard. Et notre conversion véritable commence lorsque l'homme cesse de voir selon les critères de son ego, de ses passions, de ses intérêts, de ses peurs ou bien de ses préférences. Et pourquoi ? Eh bien, pour apprendre à voir avec ou selon le regard même de Jésus-Christ. Les pères qui ont vécu dans cette partie de l'Empire qui était de langue grecque, à commencer par ces pères du désert qui, dès le IVe siècle, ont essayé de se retirer pour prier, pour méditer l'Évangile, pour témoigner, parce qu'ils avaient besoin de prier pour d'autres. Eh bien, ceux-ci et d'autres encore après eux, qu'on appelle par exemple les pères hésychastes, c'est-à-dire ceux qui se sont retirés dans des monastères ou dans des ermitages, bref, tous ces gens remarquables nous disent que ce qui importe pour nous, c'est ce que Paul exprimait en Romains 12, « Soyez renouvelés dans votre mentalité ou dans votre intelligence. » Et ils nous disent que c'est cette purification de notre mentalité, de notre intelligence, qui nous permet de toujours mieux ressembler à Jésus-Christ. Regardez avec les yeux de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le mal ou bien qu'il faut embellir artificiellement la réalité. Non, nous vivons dans un monde difficile, injuste, cruel, mauvais. Mais il s'agit de contempler chaque événement, chaque personne et sa propre existence à la lumière de la providence, de la croix et de la résurrection. Et c'est un long apprentissage, nous disent tous ces témoins qui nous ont précédés, qui dure toute une vie. Alors, je vais en souligner trois dimensions, si vous voulez bien. D'abord, regardez, je l'ai dit, les yeux avec les yeux de la providence. Ou dit autrement, en plus simple, en faisant confiance à ce Dieu qui, dans sa bienveillance, prend soin de nous, comme disait le psalmiste. Jette ton souci sur le Seigneur et il prendra soin de toi. Et le « il prendra soin de toi », j'ai été vérifié dans le texte, c'est « et il te nourrira ». C'est intéressant, hein ?« Il prendra soin de toi », c'est très concret. L'homme naturel, c'est-à-dire nos contemporains en général, interprète, eux, les événements selon leur utilité immédiate. Hein. Il qualifie rapidement certaines choses de bonnes ou d'autres de mauvaises. Mais le Christ nous révèle que Dieu, de façon discrète, c'est vrai, mais certaine, est à l'œuvre jusque dans ce qui peut nous paraître comme un échec, et par exemple dans la maladie, et dans toutes les circonstances les plus difficiles de notre vie d'hommes et de femmes. Et nous en connaissons tous à un moment ou à un autre. Isaac le Syrien, qui est peut-être mon père préféré, si je peux dire les choses comme ça. Isaac le Syrien, qui a vécu au 7e siècle, dans ce qu'on appelait la Mésopotamie d'alors, l'Irak aujourd'hui, disait « Ne qualifie pas prématurément un événement de bon ou de mauvais, mais attends d'en voir le fruit selon Dieu. » Ben, sa parole, c'est d'une très grande sagesse spirituelle. Parce que ce qui me semble peut-être aujourd'hui une catastrophe peut devenir peut-être plus tard une immense grâce. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, avec ses frangins qui lui avaient voulu du mal, qui avaient voulu l'assassiner, le faire disparaître, parce qu'il était le chouchou de son père, n'est-ce pas, Jacob. Eh bien, un jour, en revenant en Égypte pour trouver du blé, justement, et pour trouver de quoi se nourrir, ils ont été confrontés à Joseph, que le Seigneur avait établi dans une position dominante. Et il nous est raconté que le Seigneur a transformé le mal en bien. Et c'est ça qu'il peut faire avec nous. Les pères du désert ont appris à écarter leur jugement pour laisser Dieu dévoiler peu à peu le sens caché des événements. Souvent confronté à cela dans ma vie, quand j'étais pasteur, j'avais souvent cette illustration à transmettre. C'est comme un tapis. Si vous regardez l'envers du tapis, il y a des nœuds, il y a des fils, il y a des raccords, il y a du chenille, comme on dit en vaudois. Et puis, quand on tourne le tapis, alors on comprend les dessins. Aujourd'hui, on regarde du côté des nœuds, des problèmes. Un jour, on retournera le tapis et Dieu nous montrera ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Alors, un autre père du désert, qui s'appelle Macaire l'Égyptien, enseigne « Celui qui aime Dieu reçoit tout ce qui lui arrive comme venant de sa main miséricordieuse. » Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec le « Inch'Allah » des musulmans, que la volonté de Dieu soit faite, point la ligne, c'est la fatalité. Non, ici, c'est le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et s'il nous conduit même à travers des difficultés, des déserts, alors c'est parce qu'il a pour nous un projet et que lui est miséricordieux. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'attribuer le mal à Dieu. Et d'ailleurs, les pères eux-mêmes distinguent clairement entre ce que Dieu veut positivement et ce que Dieu peut permettre pour conduire l'homme à une plus grande communion avec lui. Et même, nous disent-ils, les blessures et nos échecs peuvent alors devenir des occasions de guérison. Plus tard, un autre grand qui s'appelait Maxime le Confesseur. Pourquoi on l'appelle le Confesseur ? Parce que, à force de témoigner de Jésus-Christ, on a fini par lui couper la langue et lui couper les mains. On lui a coupé la langue pour pas qu'il annonce l'Évangile, puis couper les mains pour pas qu'il écrive. Eh bien, Maxime le Confesseur disait « Celui qui connaît le mystère de la croix découvre le sens caché de toute chose. » Ça veut dire quoi ? Et il savait de quoi il parlait, c'est qu'à la lumière de la croix, les souffrances ne sont plus absurdes. Elles deviennent même le lieu où l'amour du Christ nous rejoint l'homme. Et le chrétien, c'est très important cela, apprend à ne plus simplement demander « Mais pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Mais plutôt « Seigneur, que veux-tu accomplir en moi à travers cet événement ?» Eh bien, toute cette année écoulée, mes amis, je le dis très simplement, j'en ai fait l'expérience. Voir avec les yeux du Christ peut transformer pour nous la plainte en confiance, l'impatience en espérance et l'angoisse en abandon confiant entre les mains de Dieu qui jamais ne nous abandonne. Jette ton souci sur le Seigneur et il prendra soin de toi. Maintenant, j'en viens à mon deuxième point qui consiste à regarder les autres avec les yeux de la miséricorde. Je sais bien que notre regard humain juge spontanément, il classe les gens, il catalogue, celui-ci il est comme ça, celle-là elle est comme ça, etc. On compare, on idéalise, etc. Le Christ, lui, il voit d'abord la personne avant sa faute. Et c'est lui qui nous parle à ce sujet de paille et de poutre, bien entendu. Et il a raison de le faire. Au XXe siècle, un grand qui vivait sur le mont Athos, donc en Grèce, Silouane, un homme tout simple mais rempli du Seigneur, disait que plus l'amour est grand, moins il voit les fautes du prochain. Alors cette parole, bien sûr, ne signifie pas qu'on doit ignorer le péché, mais elle signifie que l'amour regarde toujours plus profondément que la faute. Et là où nous voyons un pécheur, un sale type ou une dame peu recommandable, le Christ voit une fille ou un fils blessé que le Père veut sauver, qu'il veut guérir. Sauver, guérir d'ailleurs, c'est pratiquement la même signification du même mot en grec. Et puis le disciple de Silouane, Sophronie d'Essexe, que beaucoup de mes amis ont connu, disait « Voir chaque homme comme Dieu le voit, c'est déjà commencer à prier pour lui. » Oui, le regard devient alors une forme de prière. Et ça, on peut le tester les uns les autres. J'ai souvent, je vous dis un petit mot entre nous, confession, entre nous, j'ai souvent côtoyé un homme qui avait le même visage que Hitler. Pas très gâté, la même moustache, etc. Je crois qu'il n'avait pas fait exprès, le gars. Et chaque fois que je passais, que je le croisais, je disais, tiens, voilà Hitler. Puis le Seigneur m'a donné à penser, prie pour lui. Et puis, chaque fois que je le croisais, maintenant, après, je disais, ben, Seigneur, bénis cet homme. Mais c'est possible, on arrive. Ça veut dire qu'il y a, un déclic dans notre manière de regarder qui peut se faire.
Il a rasé sa moustache,
du coup. Il y a des avantages.
Non, il a rasé sa moustache.
Non, il n'a pas rasé sa moustache, mais il aimait de Dieu aussi. J'aimerais vous parler d'un autre gars qui s'appelle Jean Climac, un père d'église. On en a parlé dans notre groupe d'études. C'était à la fin du 5e siècle. Il a été le chef, le patron, on appelle ça l'igoumène, du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï. Vous vous en souvenez? Ouais. Eh bien, Jean Climac, qui a écrit un traité remarquable qui s'appelle L'Échelle, d'ailleurs Climac, ça veut dire échelle, donc on ne sait pas son nom de famille, on l'a appelé Jean L'Échelle, Jean Climac. Eh bien, Jean Climac disait, « Comme le feu ne produit pas la neige, celui qui aime son prochain ne le condamne pas. » Bon, c'est beau, hein. Vous voyez, les pères de l'Église, c'est pas compliqué, hein. Mais ils ont un apport extraordinaire, souvent très imagé. Alors, frères et sœurs, on voit que tous nous montrent que le regard du Christ est un regard qui relève. Dieu nous a fait à son image et Jésus voit en chacun de nous une image parfois obscurcie, mais jamais définitivement détruite. Et c'est pour ça que Jésus regarde Pierre après son reniement sans le condamner. Et c'est pourquoi il regarde Zachée avant sa conversion sans dire « ça, c'est un voleur ». Ou bien il regarde le bon larron sur la croix avec amour et bienveillance jusque dans son agonie. Le regard change les choses. Alors, apprendre à regarder les autres avec les yeux du Christ, c'est renoncer à cette espèce de tribunal intérieur qu'on a chacun, où nous distribuons sans cesse des mérites ou bien alors des condamnations. Et puis, c'est demander à Dieu la grâce de découvrir derrière chaque personne une personne appelée à elle aussi changer de mentalité, à devenir progressivement semblable à Jésus-Christ, en un mot à lui ressembler. D'où l'importance de notre témoignage. Notre témoignage en parole, en pensée, en acte, en prière. Et c'est dans notre année N, comme on disait, que de Sabitis, que d'essayer d'être ces témoins-là dans la qualité de notre vie. Alors j'en arrive rapidement maintenant à mon troisième point qui nous invite à regarder notre propre vie avec les yeux de l'humilité et de l'espérance. Avec les yeux aimants et bienveillants que le Seigneur porte sur chacun de nous sans se lasser. Oui, c'est vrai que le propre regard que nous portons sur nous-mêmes, beaucoup aussi entre deux extrêmes, ou bien l'orgueil, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils ont une bonne vie, parce qu'ils sont bien appréciés des autres, l'orgueil, ou bien alors le découragement, lorsqu'ils tombent, lorsque la vie fait qu'ils n'arrivent pas à vivre comme ils l'aimeraient. Et nous, chrétiens, nous sommes aussi menacés de ces deux tendances. Alors, souvenons-nous que le Christ intercède pour nous et lui ne nous regarde pas ni de cette façon triomphaliste ni désespérée. Le premier qui a été un de ces pères du désert, c'était à la charnière du 3e et 4e siècle, il s'appelait Antoine le Grand. Il est bien connu dans la littérature parce qu'on a parlé des tentations de saint Antoine, par exemple. Flaubert a écrit là-dessus. Ben, Antoine le Grand, dont on connaît sa vie parce qu'elle a été écrite par ses disciples, Antoine le Grand enseignait à ceux qui venaient à l'écouter « La vie est difficile, la vie est un combat, alors attends-toi à des tentations jusqu'à ton dernier souffle. » C'est vrai que quand on devient chrétien, il n'y a pas tout à coup une cessation des activités du mal dans notre vie. Et puis, ça y est, on est bon, ça y est, j'ai mon ticket pour l'au-delà. Hein. Non, pas du tout. Hein. Vous savez bien que la vie chrétienne, c'est un combat. Et c'est un combat qui est à renouveler tous les jours. Ça fait partie de notre réalité humaine, alors qu'on est encore sur la terre, puis pas encore au ciel. Hein. La vie chrétienne n'est pas la vie d'une perfection qui est acquise, mais d'une fidélité toujours recommencée. C'est tous les jours que nous sommes invités à dire, « Seigneur, moi je veux m'attacher à toi. Je veux faire de toi mon espérance pour te louer, pour vivre selon ton projet. » Et les chutes ne doivent pas nous conduire au désespoir, mais au contraire, à nous approcher toujours plus du Seigneur, pour lui dire, Seigneur, par moi, j'y arrive pas, mais aide-moi, je veux collaborer avec toi, je veux t'aider, mais aide-moi à t'aider. C'est Isaac le Syrien dont j'ai parlé au tout début, qui était, entre guillemets, mon préféré, qui écrivait à ce propos, « Il n'y a pas de péché que la miséricorde de Dieu ne puisse dépasser. » Paul disait, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Or, c'est cela qui fonde toute notre espérance et surtout le dynamisme de notre vie chrétienne. Le regard du Christ sur nous, qui n'est pas un regard accusateur, mais un regard pour prendre soin de nous. Le chrétien ne se définit pas par ses succès ou ses échecs, mais par son orientation vers le Christ. Les pères de l'Église utilisaient même un mot, le repentir, et on a parlé de ça dans notre groupe, repentir, c'est remonter la pente pour venir au pied de Jésus. Repentir, d'accord, hein? Gardez bien cette image, magnifique. Donc, quand ça ne va pas, venez tout de suite au pied de Jésus. Remonter la pente, oui, ça fonde notre vie chrétienne et notre espérance. Chaque jour est une nouvelle possibilité de modifier ses choix. Parce qu'à chaque jour, nous avons des choix qui viennent automatiquement ou pas. Ce n'est pas simplement des grands choix existentiel qui modifie notre vie et notre carrière. Non, c'est les choix, tous les petits choix de tous les jours. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours qui nous invite à progresser dans la vie spirituelle pour nous attacher davantage à Jésus-Christ, pour apprendre à voir, à se regarder soi-même avec le regard de Jésus, pour apprendre quoi ? À lui ressembler. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Toute la riche tradition de la vie chrétienne, qui dure depuis 2000 ans, avec des temps de discrétion, avec des temps difficiles, avec des temps plus réussis peut-être, je ne sais pas, mais tout cette immense vie chrétienne qui nous a précédés dont nous sommes les héritiers, eh bien, il faut nous en inspirer. Ils nous ont été enseignés par des gens qui ont payé le prix pour nous faire comprendre ce que ça veut dire que d'être chrétien. Ils nous ont dit surtout que la sainteté, on dirait chez les salutistes, la sanctification, c'est un mot qu'on aime bien, que la sanctification est d'abord une purification du regard. Et plus le cœur est purifié par la prière, par le repentir, par l'humilité, par la charité, et plus il devient capable de voir comme le Christ voit. Alors les événements ne sont plus des obstacles, mais des appels de Dieu bienveillant, bon et fidèle, qui prend soin de ses enfants. Et les autres ne sont plus des rivaux, des adversaires, mais des frères et des sœurs qui sont confiés à notre amour. Et nous-mêmes, c'est ça qui importe aussi, nous ne sommes plus enfermés dans nos échecs ou dans nos réussites, mais appelés à renaître dans la lumière du Seigneur pour ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous. Apprends-moi à regarder comme tu regardes. Donne-moi tes yeux pour contempler le monde, tes yeux pour accomplir mes frères et sœurs, tes yeux pour discerner ton œuvre dans les événements, et tes yeux pour me voir moi-même dans la vérité de ton amour. Alors mon cœur, ma vie tout entière, pourra devenir peu à peu semblable à toi. Mais pour cela, j'ai besoin de toi. Je jette sur toi mes soucis, mon souci. Tu prendras soin de moi. Seigneur, renouvelle-nous par ton Esprit Saint. Amen.